Radio, bonsoir. Merci de votre fidélité au programme de studio Kalangou qui sont relayés dans tout le Niger via notre réseau de 52 radios partenaires et nos 7 télévisions. Des contenus aussi disponibles sur notre site www.studiokalangou.org et notre page Facebook Studio Kalangou. Impact du changement climatique sur l'agriculture au Niger, quelle action pour mieux s'adapter? C'est le thème du forum de ce jour. Au Niger et dans le reste du Sahel, la menace du changement climatique est une réalité quotidienne pour les habitants. Ainsi, les températures augmentent 1,5 fois plus vite que dans le reste du monde, souligne les Nations Unies. D'ici 2100, la température augmentera dans le monde de 3 degrés Celsius à 6 degrés Celsius, ce qui aggraverait les problèmes d'eau, de sécurité alimentaire, mais aussi les conflits et les crises humanitaires vont empirer. Au Niger, la campagne agricole 2021 a été déclarée déficitaire par le gouvernement. Dans la plupart des régions, un déficit de la production agricole à plus de 50% est constaté. Alors, qu'est-ce qu'on entend déjà par changement climatique? Quelles peuvent être les causes du changement climatique? Quels sont les effets constatés ici au Niger? Quel impact sur l'environnement et sur l'agriculture? Comment atténuer les effets du changement climatique sur l'agriculture? Et quelles sont les autres alternatives pour les agriculteurs pour faire face aux conséquences de ce changement climatique? Autant de questions, il y a bien d'autres que nous tenterons de trouver réponse au cours des 45 minutes à venir. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir dans ce studio le professeur Falalou Hamidou. Il est chercheur senior à l'Institut international de recherche sur les cultures des zones tropicales semi-arides. Bonsoir, professeur.
Bonsoir.
Monsieur Naziru Touné, il est ingénieur météorologue à la Direction nationale de la météorologie. Bonsoir.
Bonsoir.
Et nous avons aussi avec nous Monsieur Saleh Mahamadou, il est ingénieur agronome à la plateforme paysanne du Niger. Bonsoir.
Bonsoir.
À la modération, c'est Nafis Adam Sirfo. Chers auditeurs, auditrices, chers téléspectateurs de Studio Kalangou, merci d'être avec nous. Alors, nous sommes là pour parler du changement climatique, ses impacts sur l'environnement, sur l'agriculture. Je commence d'abord avec vous, Monsieur Naziru. Le changement climatique, même, qu'est-ce qu'on entend par changement climatique? Vous êtes ingénieur en météorologue.
Donc, merci beaucoup pour cette question. Je dois remercier également le studio Kalangou pour nous avoir donné cette occasion de nous exprimer sur une thématique assez intéressante. Donc on sait que l'agriculture, c'est un des secteurs clés de l'économie du pays qui, lorsqu'il est perturbé, que ne serait-ce qu'un petit peu, peut porter préjudice carrément à l'économie. Alors, le changement climatique, on entend parler maintenant de partout. Il est vraiment intéressant de cerner, de saisir effectivement
la notion
de ce changement. Donc quand on parle de changement, déjà c'est par rapport à quelque chose. C'est par rapport à une référence. Et nous parlons ici et par rapport au climat. Donc au changement climatique, c'est par rapport à une référence bien définie, par rapport à une norme bien définie. Donc le changement en tant que tel, de manière générale, c'est toute modification durable. Donc des paramètres statistiques, parce que de la météo, nous suivons un certain nombre de paramètres, nous enregistrons ces paramètres, la température, la précipitation, l'humidité, l'insolation. Donc c'est tout changement, toute modification durable sur une période de 30 ans conventionnellement, donc de ces paramètres sur le climat terrestre. Donc ça c'est un. Il faut aussi nuancer le changement climatique de la variabilité climatique, parce que nous avons tendance à tous les confondre. Parce que la variabilité climatique, lorsqu'un phénomène arrive, donc on a tendance tout de suite à l'attribuer au changement climatique. Or que du point de vue de la science, ce n'est pas effectivement le cas.
C'est toute une chaîne.
Exactement. Mm-hmm. Il faut que le phénomène ait une occurrence assez élevée, donc une fréquence assez élevée, une fréquence de retour, pour qu'on l'attribue au changement climatique, donc une tendance. Donc il faut une tendance pour qu'on l'attribue à une
changement. Et quelle est cette tendance même?
Alors la tendance, elle est multiple, parce que ça dépend de chaque paramètre. Si on prend l'élément central qui est la température, donc on constate qu'il y a une tendance à la hausse de la température du monde, d'une manière générale, mais du Niger d'une manière particulière, depuis les années 81, les années 61 du moins, jusqu'à nos jours. Donc on observe une tendance vraiment à la hausse de la température.
Et donc quels sont les effets constatés actuellement ici au Niger par rapport à cette tendance?
Alors, Donc, pas seulement au Niger, parce que le climat, en fait, il n'a pas de frontières. Oui. C'est ça, sa particularité.
Dans le Sahel, dans le monde.
Exactement. Donc, les émissions de gaz à effet de serre qui sont responsables de ces changements climatiques ne concernent pas qu'un seul pays. Donc, un pays peut émettre tant de gaz dans l'atmosphère qui peut engendrer un bouleversement dans l'écosystème de notre planète et qui peut influencer un autre pays. Donc, il n'a pas besoin d'un visa pour affecter une localité bien
donc,
donnée.
On peut dire que le Niger également vit cette situation de changement climatique.
Effectivement, si on prend, et d'après nos analyses, depuis les années 1990 à nos jours, donc on assiste à une augmentation de la température, comme je viens de le dire, mais cette augmentation, elle est restituée ou bien elle interagit avec les autres paramètres, c'est comme une réaction en chaîne. Donc la pluviométrie, ces 20 dernières années, on assiste aussi à un retour de la pluviométrie en termes de cumul annuel. Donc ça, c'est un des effets du changement climatique. Donc quand on prend...
Le retour de la pluviométrie en cumul, vous dites, mais on sait que c'est juste sur une période.
Alors, et effectivement, vous avez tout à fait raison, parce qu'il faut nuancer les termes.
Voilà.
Quand j'ai dit retour, c'est par rapport à un cumul annuel.
Voilà.
Donc, maintenant, ce qu'il en est dans la variabilité intra-annuelle, donc à l'intérieur de la saison, ça c'est encore une autre question. Parce que, c'est vrai, les pluies sont revenues, mais on assiste à des phénomènes de sécheresse.
Voilà.
Qu'est-ce qui peut expliquer ce paradoxe?
Oui, justement, oui.
Donc, les analyses ont montré que les deux dernières décennies qui ont passé, donc le nombre de jours de pluie diminue, alors que le cumul augmente. Alors, donc ça veut dire que la fréquence des événements extrêmes va augmenter. Il peut y avoir une précipitation diluvienne qui va se déverser sur une localité bien définie, mais qui peuvent être suivies des séquences sèches, donc des pauses pluviométriques assez longues. Donc c'est un peu le choc que le changement climatique, c'est-à-dire engendre par rapport à nos activités, et surtout agricoles.
Nous allons donc revenir vers vous, le temps de donner la parole à nos deux autres invités. Professeur Falalou, le changement climatique est une réalité, le Niger vit cela également à travers l'intervention du météorologue. Vous, de votre côté, comment vous percevez cette notion du changement climatique?
Merci madame. Et tout d'abord, mes remerciements pour le studio Kalangou de nous faire l'honneur d'être à ce forum, donc au nom de l'ICRISAT dont je représente, afin de donner notre point de vue sur la situation du changement climatique. Comme l'a dit notre collègue, le changement climatique, effectivement, il est perceptible à beaucoup de niveaux. Il y en a assez d'exemples pour montrer que de 1960 ou même de 1990 à nos jours, beaucoup d'événements qui sont liés principalement à l'agriculture ont complètement modifié. C'est effectivement un phénomène perceptible maintenant par la population. Nous, à notre niveau où nous menons des recherches dans le sens d'atténuer ou d'aider les populations à avoir une certaine résilience, quand nous impliquons cet aspect des variabilités et notamment au niveau de la sécheresse. Donc, à l'intérieur de l'année, comme il l'a dit, il y a des poches de sécheresse qui peuvent être en début ou à la fin, mais également d'année en année. Et l'exemple est tout simplement en vérifiant les données pluviométriques de mon village. L'année passée, il y a eu 600 mm. Cette année, il y a eu 900 mm d'eau. Et la production de l'année passée de 600 mm était plus importante que celle de 900 mm de cette année.
Paradoxe,
et ça,
oui.
Vraiment, les populations me demandent, mais vous qui travaillez là-dessus, pourquoi, comment vous nous expliquez ça? Mais c'est parce que justement, ces pluies-là sont très, très mal réparties. Parce qu'il y a des jours où cette année, on a eu 98 mm. Et en une journée, ce qui fait que c'est ni utile à la plante et ça entraîne d'ailleurs la dégradation du sol. Donc, c'est des phénomènes perceptibles que les populations quand même, effectivement, voient et ça les inquiète d'ailleurs, comme il l'a dit. Donc, maintenant, je sais pas, pour rebondir sur la question l'impact l'agriculture.
Oui.
Il a déjà énuméré le cas de l'augmentation de la température de façon globale, mm-hmm. pas simplement au Niger. Donc ça, c'est un des impacts sur l'agriculture.
Mm-hmm.
Mais également, selon les rapports récents de 2018 du panel intergouvernemental sur le changement climatique,
mm-hmm.
D'ici 2050, 50 cultures ne pourront plus être cultivées dans l'environnement où elles sont cultivées à nos jours. Voilà, exactement.
Mm-hmm.
Donc il y a aussi les sécheresses et les inondations qui vont être beaucoup plus fréquentes.
Mm-hmm.
Et la productivité des cultures va baisser de moins 15 à moins 50%. Justement, l'année passée, par exemple, comme vous l'évoquez, le déficit céréalier était très, très, très important.
Mmh, mmh.
Donc, en affectant les différents secteurs directs ou indirects de l'agriculture, le changement climatique dont il a bien souligné ne date pas d'aujourd'hui,
mmh.
mais c'est les phénomènes ou les conséquences dont on fait face mmh, aujourd'hui,
mmh.
a véritablement baissé la production agricole.
Mmh.
Et si on prend la comparaison, donc selon le rapport du ministère de l'Agriculture,
oui.
de 2021 par rapport à 2020 et les cinq dernières années,
mm.
donc selon ce rapport, la balance entre la production céréalière sèche, c'est-à-dire mil, sorgho,
mm-hmm.
maïs et fonio,
oui.
disponible, est établie à 2 859 000 tonnes,
mm-hmm.
et le besoin en consommation pour ces quatre cultures était de 4 256 000 tonnes.
Ah,
et il dégage ainsi un déficit de 1 397 680 tonnes.
C'est énorme.
Pour le Niger, rien qu'entre 1920 et 2020. 2020.
Voilà. Une année.
En une année,
oui.
seuls Dosso et Maradi ont fait un excédent par mmh. rapport à l'année passée.
Mmh, mmh.
Donc, quand on considère la production du riz aussi a significativement baissé,
mmh.
et le pays, s'il veut satisfaire, parce que la production était de 134 000 tonnes,
mmh.
alors que le besoin est estimé à 508 000 tonnes, donc d'où un déficit à combler de 420 000 tonnes pour pouvoir satisfaire les besoins à riz de la population nigérienne.
Oui, oui.
Donc vraiment, l'impact, c'est là, rien
c'est
qu'en comparant
visiblement,
les phénomènes qui sont
énorme.
Passés avant, maintenant nous sommes en train de subir l'effet de façon directe.
L'impact, il est visiblement énorme sur l'agriculture. Monsieur Saleh Mamane, vous êtes ingénieur agronome à la plateforme paysanne du Niger. De votre côté, que dire sur la situation donc, de ces dernières années du changement climatique.
Ok, bonjour. Merci en tout cas de l'opportunité que vous nous donnez pour pouvoir en tout cas nous exprimer sur cette question en tout cas d'impact du changement climatique sur l'agriculture au Niger,
mm-hmm.
qui est un sujet en tout cas d'actualité au niveau mondial, mm-hmm. même pas au niveau du Niger.
Oui, oui.
Effectivement, comme mes prédécesseurs l'ont dit, la question du changement climatique en tout cas c'est une préoccupation mondiale.
Mm-hmm.
Mais en tout cas, les effets sont plus en tout cas ressentis au niveau du Sahel, surtout au niveau de l'Afrique au sud du Sahara,
mm-hmm.
notamment la région sahélienne.
Sahélienne, oui.
Voilà. Donc, en tout cas, nous, au niveau des agriculteurs, nous avons perçu le changement climatique depuis fort longtemps.
Mm-hmm.
C'est pour cela que nous avons essayé, en tout cas, de façon disons, endogène à pouvoir trouver des alternatives pour pouvoir nous adapter, surtout en termes de pratiques mm-hmm. agricoles. Donc, comme mes prédécesseurs l'ont dit
mm-hmm.
effectivement, la question du changement climatique, c'est une question qui, en tout cas, affecte surtout l'agriculture. Oui. La preuve, effectivement, rien que l'année passée, nous avons enregistré
un déficit
céréalier énorme,
mm-hmm.
et dû tout simplement à un arrêt, en tout cas brusque,
de
la saison pluvieuse.
Oui.
Disons, nous sommes la victime des agriculteurs.
Effectivement, surtout qu'on sait qu'au Niger, c'est plus de 80% de la population nigérienne qui vit de l'agriculture.
Oui, en tout cas, nous vivons, disons, les agriculteurs vivent cette situation, comme vous l'avez vu, en tout cas, dans une situation toujours. De déficit céréalier, en tout cas de la sous-production et de la sous-productivité de certaines, en tout cas, cultures. Vous venez, en tout cas, de l'entendre dissiper. Certaines cultures, si on ne fait pas attention, elles vont disparaître. Donc, elles seront plus, en tout cas, aptes à produire dans certaines régions, vu effectivement le rétrécissement des isouettes, tout cas, qui sont en train de descendre vers le sud. Donc, même Gaya, qui était, en tout cas, jadis cité comme, en tout cas, la zone agricole, enregistre d'année en année et des déficits et céréaliers, en tout cas, une sous-production. Donc, en termes, en tout cas, de conseils que nous, en tout cas, nous donnons aux agriculteurs, c'est effectivement de changer l'alternative, en tout cas, le mode de production actuel.
Oui, nous allons en venir aux solutions et autres. Des sécheresses au cours de la saison pluvieuse sont, entre autres, des phénomènes météorologiques qui impactent sur l'agriculture. Monsieur Naziru, vous êtes ingénieur météorologue. Ici, au Niger, est-ce que ces effets-là, il y a des zones qui sont le plus touchées ici au Niger?
Vous savez, le changement climatique, il a tendance à augmenter, comme je l'ai souligné tout à l'heure, les fréquences des aléas climatiques. Or, l'agriculture, elle est très très sensible à ces aléas. Et parmi ces aléas, on note la sécheresse et même les inondations. Maintenant, la sécheresse, c'est vrai, elle est perceptible du point de vue d'un climatologue. C'est tout simplement un manque de pluie par rapport à une moyenne, une normale ou bien une valeur de référence. Mais du point de vue et de l'agriculture dans ce contexte, donc c'est un déficit hydrique qui survient lors du développement, d'un développement crucial de la plante, au moment où elle est fragile. Donc c'est à ce moment-là qu'on parle de sécheresse agricole. Maintenant, du point de vue climatique, étant donné que ces fréquences-là augmentent, donc on va du mal en pire. Donc ça veut dire que l'agriculture, si rien n'est fait, continuera de suivre les effets de la sécheresse. Parce que le problème, c'est quoi? C'est au niveau de du démarrage de la saison. La saison, pour ces dernières années, ces 10 dernières années spécifiquement, on assiste de plus en plus à un démarrage précoce de la saison. Or, s'il y a une précipitation assez importante qui tombe dans une localité donnée, le comportement des paysans, pour la majorité, ils prennent ce qu'ils ont. Ils partent semer, même si c'est des variétés de qualité. Ils partent semer. Or, on n'est pas sûr que c'est le démarrage de la saison.
Mais est-ce qu'il y a d'éventuelles actions pour, je ne sais pas, prévenir certains de ces effets du changement climatique?
Alors, donc, avant d'en arriver là, donc je m'aimerais ajouter que le profil de la saison, il a changé. Ça, c'est un fait. Le profil a changé. Il y a un décalage.
Donc c'est déjà visible.
C'est déjà visible, c'est perceptible. On assiste à une précocité du démarrage, mais la plupart du temps suivi des pauses pluviométriques. Or que au moment où on a semé, en ce moment la plante elle est fragile. Donc quand il y a des pauses pluviométriques assez longues, donc on peut avoir plusieurs essaimies dans une localité donnée. Si vous prenez par exemple le cas du Niger. Carrément l'ouest du pays, si vous prenez de Tawa, donc Tillabéri, Niamey, donc Edosso.
Oui,
donc c'est là où on assiste à un démarrage problématique de la saison. C'est la variabilité climatique qui est influencée par un certain nombre de facteurs, que ce soit climatique, que ce soit géographique, que ce soit l'occupation du sol ou bien le relief. Donc les paramètres climatiques, elles sont sensibles à tous ces aspects-là. Donc, il n'est pas dit que c'est parce qu'on est au Niger que le climat soit le même partout. Si vous prenez, par exemple, en termes de classification du climat, on en a jusqu'à 3 à 4 étages climatiques. Donc, vous avez la zone soudano-sahélienne, la zone sahélienne, la zone sahélo-saharienne. Donc, qui sont définies à travers les isouettes dont il a noté tout à l'heure, qui ont tendance déjà à migrer vers le nord. Donc, tous ces aspects-là entrent vraiment en jeu pour aggraver la situation. Les actions, elles sont... En tout cas, elles sont d'ordre multiple. Mais la première, c'est tout simplement une question d'adaptation. Le changement, il est clair. C'est une réalité. Donc, à nous maintenant de nous adapter. Maintenant, Les scientifiques, de leur côté, le professeur va certainement approfondir.
Effectivement.
Les scientifiques font des efforts. Ils font des efforts pour la recherche. Mais maintenant, il y a les scientifiques d'un côté, il y a l'usager de l'information de l'autre côté. Mais entre les deux, il existe un gap. Il y a un véritable problème de communication entre les scientifiques et les concernés.
Oui.
Donc, une des solutions, c'est d'améliorer ce côté-là. Et je crois que les médias peuvent entrer...
Avec les sensibilisations.
Exactement, peuvent entrer en danse, dans la danse pour contribuer à faire comprendre aux usagers de l'information et dans un langage digeste. Donc, ce qui leur concerne, en tout cas pour une année définie, si on prévoit tel ou tel phénomène, voilà le comportement adopté. Si le scientifique, dans son jargon un peu barbare, n'arrive pas à l'expliquer.
Alors, le changement climatique, c'est vraiment une réalité. La production agricole affectée, et si rien ne fait, elle prendra des coups. Les années à venir, Monsieur Saleh Mahamadou de la plateforme paysanne, comment les éleveurs arrivent à s'adapter face à ces effets néfastes?
Effectivement, maintenant, on ne peut que parler d'adaptation,
voilà.
Puisque, il l'a dit, le changement climatique, c'est une réalité. Et je pense que même, en tout cas, les chercheurs ou les scientifiques sont inquiets de, si on ne fait pas attention, on est en train de rentrer dans une phase d'irréversibilité, donc de phénomène. Donc, c'est pour cela, vraiment, nous, au niveau de producteurs ou de éleveurs, on va essayer de s'adapter autant qu'on peut. Mais ce qui est sûr, si des mesures idoines ne sont pas prises, en tout cas au niveau international, je ne sais pas, en tout cas, d'ici 2050...
Comme quoi, ces mesures, qu'est-ce que vous préconisez?
Les mesures, c'est vraiment les mesures d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre. Je pense qu'ils sont connus toujours au niveau de COP.
Il y a des décisions qui sont prises au niveau de ces rencontres internationales.
Effectivement, au niveau de chaque pays, on demande, surtout au niveau de pays, en tout cas en développement, de faire ce qu'on appelle la contribution déterminée au niveau national. Chaque pays montre un peu, je ne sais pas, c'est chaque deux ans, comment le pays, les stratégies d'adaptation et d'atténuation. Mais alors que le plus grand pollueur, il soit là, vraiment, il continue à se développer pendant que nous subissons
les
effets du changement climatique. Et même les fonds qui sont dédiés souvent au climat, c'est des fonds qui sont, quelqu'un l'a dit, c'est de l'argent, ils ont déposé l'argent à côté d'un gros serpent. Parce que ce qu'on te demande, en tout cas à un pays comme le Niger, pour remplir les conditions
ça
pour pouvoir accéder à ce fonds-là, c'est vraiment très, très, très compliqué. Donc nous, au niveau, c'est vraiment des solutions endogènes que nous préconisons, en tout cas surtout en collaboration souvent avec la recherche. C'est quoi? C'est vraiment de maintenir notre agroforesterie, donc de multiplier en tout cas les actions sur la RNA, de ne pas défricher les arbres, de continuer effectivement à faire la culture irriguée, donc que ça soit la culture fourragère, au lieu d'attendre que la pluie tombe pour qu'il y ait du fourrage,
il faut faire
la culture irriguée, que ça soit un élevage et en agriculture. Je pense que même l'État est maintenant dans cette logique de promouvoir en tout cas l'agriculture irriguée pour pouvoir combler.
C'est une initiative qui prospère.
Oui, c'est une initiative qui prospère. Et nous, du point de vue, en tout cas, des organisations paysannes, nous sommes très bien structurés, que ce soit au niveau national ou au niveau international. Nous participons à des rencontres vraiment sur des changements climatiques et nous cherchons à faire souvent les transferts, les technologies au niveau des producteurs pour voir, en tout cas, certains parlent de l'agriculture intelligente, certains parlent de l'agroécologie. Vraiment, c'est des stratégies qui permettent aux paysans de s'adapter en fonction de son petit lopin de terre qu'il a, de pouvoir bien produire avec des pratiques endogènes qui ne coûtent pas souvent et cher.
Et qui permettent vraiment d'améliorer la situation.
Et qui permettent d'améliorer la situation. Parce que même l'agriculture émettrice contribue jusqu'à 12% de l'émission de gaz à effet de serre. Donc, surtout l'agriculture intensive. Ça, effectivement, nous attirons l'attention des agriculteurs pour dire que non, l'agriculture n'est pas souvent seule victime, mais elle contribue à l'émission si elle est mal pratiquée.
D'accord. Monsieur le professeur Falalou, vous de votre côté, est-ce que dans ce genre de situation, vous anticipez vos recherches pour faire face à ce dérèglement du changement climatique pour les agriculteurs?
Merci madame, excellente question et donc je voulais rebondir un peu pour compléter ce que mon collègue de la météo disait quand il parlait de variations donc du profil des saisons pluvieuses. Mm-hmm. Effectivement pour le cas de la recherche, c'est une question importante que nous cherchons à adresser, notamment en travaillant sur la sélection des variétés qui pourraient s'adapter à chaque type, si on peut le dire comme ça, de saison. Mm-hmm. C'est-à-dire les zones ou les années quand les semis ou la saison est précoce, semis de mai ou de mois de je sais pas de fin avril, mai et même début juin, quelle est la variété qui pourrait plus s'adapter? Pourquoi? Parce que nous comprenons bien que une variété qui a une vigueur de croissance rapide, donc elle qui va exploiter les premières pluies et faire assez de racines, elle pourra justement suivre le profil de la pluie, donc de l'eau du sol, afin de rester longtemps et faire face à la poche. Peut-être on fait une grosse pluie de 50 mm, mais après ça, il peut faire 3-4 semaines sans une autre pluie. Donc, seules les variétés qui ont ce mécanisme de pouvoir croire vite, avoir un système racinaire important qui leur permet donc de suivre le profil de l'eau, pourraient justement tenir jusqu'à et la prochaine pluie. Mm-hmm. Donc ça, c'est une réponse que la recherche est en train de travailler là-dessus. Mm-hmm. Mais aussi, quelles sont d'autres variétés qui pourront, justement, en cas de début tardif, parce que dans le profil de la saison, comme il l'a dit, il y a des débuts précoces, mais il y a aussi des débuts très tardifs, où certaines zones, même en 2021, certains qui ont semé en août, ce qui est quand même extrêmement tard.
Et la saison, elle finit en septembre.
Tout à fait, en septembre ou en octobre. Là aussi, donc, on a des variétés qui sont à cycle très court, qui pourront être semées et qu'on obtient comme Shakti, qui a 2 mois, qui a eu d'ailleurs le prix du président de la République au niveau du salon de l'agriculture. Donc, qui, en 60 jours, pourrait boucler son cycle. Mm-hmm. Donc, est une des solutions, par exemple, qu'on apporte aux agriculteurs. Mm-hmm. Maintenant, pour revenir sur justement les alternatives pour les producteurs afin de faire face. Mm-hmm. Donc, l'alternative, on peut dire, la plus idoine que maintenant que tout le pays et le Niger ne fait pas exception, c'est justement cette agriculture intelligence face au climat qui est justement une approche. Si elle est mise en œuvre, donc elle permettra donc à faire adapter l'agriculture afin d'améliorer la production agricole. Mm-hmm. Elle vise principalement à augmenter la productivité dans un environnement durable, à renforcer la résilience des producteurs au changement climatique, à réduire la contribution de l'agriculture à l'émission de gaz à effet de serre, comme mes prédécesseurs l'ont souligné, mais à augmenter aussi l'accumulation du carbone dans les exploitations agricoles. Exactement, c'est-à-dire la matière organique que la plante doit et la culture doit utiliser pour croître. Donc, cette approche, effectivement, intègre la sécurité alimentaire, l'adaptation et aussi la mitigation du changement climatique. Donc, maintenant, pour ce qui est principalement, j'ai commencé à l'évoquer en répondant à la sécheresse, pour ce qui est des semences, justement, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits dans ce domaine. Et au Niger, au Niger, par exemple, c'est principalement l'INRAN et l'ICRISAT qui, effectivement, ont développé et inscrit dans le catalogue national donc de nouvelles variétés. Et si on prend simplement de 1983 à 2021, il y a 125 nouvelles variétés, donc des variétés améliorées, qui ont été inscrites dans des catalogues qui concernent les principales cultures au Niger. Et parmi ces variétés, comme l'a souligné mon prédécesseur, c'est que il y a certaines qui sont aptes à la production en contre-saison.
Par contre, d'autres non.
Donc celles qui sont aptes à la production en contre-saison
pourrait bel et bien être utilisé pour combler le déficit de la saison pluvieuse.
Quelques exemples de ces...
Justement, il y en a, celle, il y a parmi toutes les espèces, parmi les variétés des milles, il y en a beaucoup. Okay. Parmi le sorgho, il y en a beaucoup. Mm-hmm. Parmi l'arachide et le niébé, il y en a beaucoup de ces variétés qui pourront être exploitées. Il y a eu beaucoup de visites sur le terrain, des autorités de ces pays pendant la contre-saison, pour voir comment l'arachide, le mil, le sorgho sont produits en contre-saison. Donc ces variétés, moi ce que je préconise justement comme approche en plus de ça, c'est que quand vous voyez le Niger, comment il est, et pendant la saison pluvieuse, il pleut deux fois abondamment, comme on l'a dit, mais l'eau n'est pas utilisée, elle ruisselle et elle fait des dégâts. Elle est de l'érosion
alors
au niveau du sol.
Alors qu'on pourrait l'utiliser pour les cultures.
Exactement. Donc, une solution, c'est effectivement de collecter cette eau de ruissellement, soit dans des barrages, des mini-barrages, des petites retenues d'eau, ou créer des mares artificielles qui pourront être donc utilisées pour irriguer, ne serait-ce pendant 2-3 mois, et faire produire ces cultures-là, cultiver ces variétés pour augmenter le rendement. Mmh. Ça va fixer tous ces jeunes qui partent ailleurs. S'ils ont un travail à faire, ils vont rester dans le pays. Donc, vraiment, les solutions sont là. Il faut, comme il l'a dit le collègue de la météo, il faut une certaine coordination des différents secteurs qui travaillent dans ce domaine et que les actions soient mises en chaîne de façon synergique pour qu'on trouve réellement la solution à ces difficultés qu'ont les paysans.
Mais est-ce que vous pensez que ces solutions que vous proposez à ces agricultures sont adoptées?
On a fait des démonstrations sur le terrain dans beaucoup de régions du Niger que c'est bel et bien accueilli non seulement par les paysans, mais elles sont bel et bien adaptées. Parce que ce qu'on a fait, la sélection participative de n'importe quelle technologie, qu'il s'agit de comme il a dit, de RNA, qu'il s'agit de variétés, on fait impliquer les paysans.
Qui en finit, ils
choisissent la plus adaptée à leur zone et ils peuvent la prêter. Mais deux fois, c'est un manque de moyens de pouvoir, si c'est des semences, souvent elles sont chères ou non disponibles, parce que les instituts normalement qui font cette recherche ne font pas la dissémination, mais quand même maintenant récemment, des entreprises sémencières privées sont impliquées par l'État et par les instituts travaillant dans la recherche agronomique pour justement qu'elles puissent multiplier ces sémences et les mettre à la disposition des paysans dans toutes les régions du Niger. Oui. Donc c'est vraiment applicable, mais comme je l'ai dit, il y a beaucoup de facteurs et de manque de communication qui font que souvent la technologie ne donne pas les résultats escomptés parce qu'elle est deux fois pas mise en œuvre comme il se doit ou certains moyens manquent pour effectivement la rendre opérationnelle.
D'accord, je reviens vers vous donc, Monsieur Saleh de la plateforme. Vous avez entendu toutes ces solutions proposées par les chercheurs. Est-ce que vous, vos agriculteurs, ils s'adaptent bien à ces solutions?
Oui, bien sûr, tout ce qu'on fait, effectivement, c'est pour renforcer la résilience de ces agriculteurs, donc, en tout cas, notamment l'adaptation à ces changements climatiques. Mais voyez-vous, déjà, actuellement, on parle de migrants climatiques, donc des exploitations familiales qui ont complètement abandonné leur village, en tout cas, tellement que le climat aride ne s'y est pas. Il n'y a pas de production là-bas. Mais nous, c'est que, en tout cas, nous travaillons effectivement avec la recherche pour que ça soit une recherche action, en tout cas, une recherche qui est vraiment adaptée aux exploitations familiales. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez, il a dit, professeur, que les semences coûtent cher.
Oui.
Déjà, un producteur qui... quand vous prenez la couverture alimentaire, souvent... c'est deux mois par rapport à sa production.
Ça sera difficile pour lui de se procurer
des semences. Donc, nous, c'est pour cela, en tout cas, dans les paquets technologiques que nous diffusons à leur niveau, en tout cas, nous mettons l'accent sur la sélection participative des semences locales. Parce que, quoi qu'on dise, les semences locales, nous, on dit, c'est des semences qui sont adaptées et qui en tout cas qui ont muté face à ces changements climatiques.
Et comme le disent, consommer le local, c'est...
Voilà, consommer le local. Parce que nous, souvent, nous travaillons avec ce qu'on dit de chercheurs qui sont alliés donc aux agriculteurs. Parce que aujourd'hui, disons, l'industrie des semences est devenue un truc lucratif. Donc nous avons peur que vraiment nos semences paysannes soient des semences, en tout cas, qui sont, disons, expoliées ou... Les producteurs vont perdre la semence, donc ils vont perdre leur souveraineté. Parce que quand tu n'as plus de semences, aujourd'hui, on dit, quelqu'un qui n'a pas de semences, qu'est-ce qu'il va produire? Tu n'as pas de semences, tu n'as pas d'argent pour acheter les semences.
Donc
tu deviens quoi? Donc, c'est pour cela, les semences locales endogènes, nous les valorisons. Et surtout, effectivement, en collaboration avec les chercheurs, pour voir effectivement quel type de semences et comment ils vont sélectionner ces semences. Et si même ce n'est pas, en tout cas, diffusé dans les catalogues, comment nous parlons de la certification par le père.
Voilà.
Que ce soit ces producteurs frères qui ont certifié et que les semences dentelles, vraiment, ce sont de bonnes semences parce que je l'ai testé et ça marche.
D'accord.
Donc, nous faisons ce qu'on appelle... de formation horizontale de paysan à paysan, où vraiment que c'est les paysans eux-mêmes, entre eux, et trouvent des solutions et discutent.
D'accord. En tout cas. Autant donc d'actions de résilience proposées, soit par les chercheurs de l'ICRISAT ou au niveau de la plateforme paysanne. Vous, M. Naziru Touné, qu'est-ce que vous pensez vraiment de toutes ces actions entreprises, ces actions de résilience pour faire face aux intempéries du changement climatique sur l'agriculture?
Très bien. Alors,
je
me réjouis de ces deux précédentes interventions parce que elles font cas toutes les deux à un changement de comportement. Donc, or que le changement de comportement ne peut arriver qu'à travers une sensibilisation. Et il faut la sensibilisation, il faut pouvoir atteindre donc la cible.
La cible, oui.
Effectivement. Donc, d'un côté, j'aimerais aussi souligner que vous avez bien fait de réunir les chercheurs, donc les utilisateurs de l'information et les producteurs de l'information. Donc la direction de la Météorologie nationale étant productrice de l'information, surtout en début de saison pour la planification, parce que tout producteur qui est informé par rapport à l'issue de la saison, son comportement, son profil, ça veut dire qu'il va pouvoir faire une bonne planification. Donc, tout producteur, pour répéter, qui est informé, il est déjà résilient en quelque sorte. Maintenant, le challenge, c'est de pouvoir atteindre toutes ces cibles-là.
Effectivement.
Par exemple, la direction, chaque année, elle fait des prévisions saisonnières, donc à l'échelle nationale. Mais il faut que l'utilisateur final de l'information
puisse
avoir cette information-là.
Oui, oui.
Donc, nous travaillons avec quelques partenaires, mais bien que... Vous savez, les partenaires, eux, ils ont un cahier de charge. Donc, ils ont des zones d'intervention. Donc, on peut intervenir avec leur appui.
L'État également fait...
L'État pour l'instant, c'est des perspectives. Donc, l'État doit y mettre des moyens pour qu'on puisse atteindre vraiment toute la population, puisque vous l'avez bien souligné que 80% c'est vraiment assez conséquent de la population. Agricole. Donc ce secteur-là doit vraiment être suivi de près. Donc le début de la saison qui est vraiment problématique. Donc j'insiste là-dessus. Il faut que chaque producteur soit vraiment armé en début de saison pour qu'il puisse utiliser les différentes variétés qui ont été développées par les chercheurs.
Merci bien. Alors, professeur Falalou, pour terminer, quel conseil à ces agriculteurs pour faire face à ces intempéries du changement climatique?
Merci madame. Donc je vais relayer un peu ce que mon collègue de la plateforme paysanne vient de dire, justement par rapport aux variétés locales dont il fait allusion. Le monde de la recherche aussi n'oublie pas cet aspect parce que c'est un constat. les plus adaptés dans l'environnement, dans chaque environnement en question, et sont les meilleurs, mm-hmm. bien qu'elles ont quelques limites en termes de rendement ou autre chose, mm-hmm. ou susceptibilité à certaines attaques des insectes ou des maladies.
Mm-hmm.
Mais la recherche inclut cet aspect, mm-hmm. pour donner un, comme il a dit, un package, donc un lot de technologies qui sont associées. Et mm-hmm. la recherche cesse à isoler ou à identifier chaque cas, chaque région, chaque période,
chaque
pour donner
limite.
Une solution, mm-hmm. la plus idoine possible.
Mm-hmm.
Donc, on néglige pas les variétés locales. Et parlant de variétés locales aussi, je profite pour dire à mon ami que nous, au niveau de l'ICRISAT, on a une banque de gènes dont je suis le responsable, où
oui,
nous
oui.
avons plus de 51 000 on peut dire variétés de toutes
oui.
ces cultures, mille, sorgho, arachide locales, c'est-à-dire locales qui sont à la disposition de tous les producteurs qui veulent, ils n'ont qu'à tout simplement s'adresser mmh, pour faire la demande. C'est vrai, on ne donne pas beaucoup de quantité pour que la personne fasse des hectares, mais on vous donne quand même, selon la zone que vous voulez, on vous propose des semences que vous allez aller cultiver dans votre champ, et prochainement vous pourrez avoir meilleure quantité de semences.
D'accord.
Donc pour aussi dire, deux fois il y a effectivement cette réticence des populations à adopter
les technologies
du fait que, comme il l'a dit, de la météorologie, ces variabilités ont fait que certaines technologies testées, elle marche 1-2 ans, et la variabilité de la saison fait que l'année qui suit, les paysans se retrouvent avec une production moindre,
voilà.
et ils se méfient. Ils préfèrent ce dont il a l'habitude de semer depuis des années, et malgré les inconvénients. Et donc, moi, je demanderais vraiment aux organisations paysannes, à tous ceux qui travaillent dans ces domaines et qui collaborent avec les paysans, d'impliquer l'approche qui consistera à démontrer: faites ce que vous avez l'habitude de faire, et moi, à côté, je mets ce que j'amène pour vous. Vous allez voir et vous allez justement comparer et choisir l'option la plus importante.
Mm-hmm.
Et sinon, aussi faire une certaine intégration de plusieurs, c'est-à-dire, je ne sais pas s'ils ont eu à expérimenter ça, mais le paysan peut avoir plusieurs lots de variétés dans son champ. Celle-là, la locale, l'améliorée, ainsi de suite. Et dans la saison, au moins quelques-unes de ces variétés qu'il a pourront produire.
Mm-hmm.
Donc, ça l'évite d'être carrément en déficit complet si jamais la saison prend. Donc, on peut faire une multitude aussi bien d'actions, disons, des variétés sur le terrain, mais aussi la gestion du sol, la gestion de l'eau pour se faire intégrer, pour réellement mettre le paysan à l'abri d'un déficit énorme de récolte.
Merci donc pour tous ces conseils. On espère que la plateforme paysanne prendra, vous prendrez note. Alors, pour terminer avec vous, quel est votre mot de la fin, Monsieur Salé, de la plateforme?
Merci. En tout cas, mon mot de la fin, le professeur l'a dit, il faut une intervention intégrée.
Oui.
Aujourd'hui, les changements climatiques... S'il n'y a pas, en tout cas, une intervention holistique avec l'ensemble des acteurs, ça ne peut pas marcher. Et l'État, en tout cas, tous les acteurs, je pense, la recherche, les paysans, il faut qu'il y ait, en tout cas, une synergie d'action pour pouvoir, en tout cas, s'adapter. Parce que à chaque jour, en tout cas, que Dieu fait, c'est des mutations, des changements, comme on l'a dit.
Mm-hmm.
Les climats changent. Et je vous dis, en tout cas, les experts ont dit que c'est vraiment irréversible. Parce que déjà, on a atteint le seuil, pratiquement les 1,5 degrés, conduit le seuil, en tout
donc
cas, à ne pas jusqu'à 2 degrés. Déjà, on est pratiquement arrivé au bout de...
Rapidement, oui.
Au bout, en tout cas, de ce seuil. Mm-hmm. Donc, vraiment, il faut, c'est que, en tout cas, mon mot de la fin, il faut une approche intégrée.
Il faut donc une synergie d'action, des actions de résilience pour les agriculteurs pour faire face aux effets néfastes du changement climatique. Le changement climatique qui est une réalité ici au Niger. Et c'est ici donc que se referme le forum de Studio Kalangu qui portait sur l'impact du changement climatique sur l'agriculture au Niger. Quelle action pour mieux s'adapter? Nous étions donc avec M. Nazir Toune, il est ingénieur ingénieur météorologue à la Direction nationale de la météorologie. Merci d'être venu. Professeur Falalou Hamidou, chercheur senior à l'Institut international de recherche sur les cultures des zones tropicales semi-arides Igrizat. Merci également à vous. Et enfin, monsieur Saleh Maman, ingénieur agronome à la plateforme paysanne du Niger. Merci. À la modération, c'est Nafis Adam Sifo. À la technique, Mustapha Ibou Ayouba. La régie vidéo est assurée par Issa Lawali. À très bientôt sur le studio Kalangou pour une nouvelle thématique. Au revoir.